Trainville PM. La voix est libre.
On salue les gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous écoutent sur le 106.9. C'est Luc qui arrive avec la voix libre.
Bonjour, Monsieur Trainville.
Comment t'y vas?
Il va t'en pas si tant pire, merci beaucoup.
Est-ce qu'il a passé un beau week-end?
Un excellent week-end, sauf que disons que les défaites des Canadiens de Montréal m'ont comme...
Ça nous affecte. Ça nous affecte plus, plus qu'on le pense.
Écoute.
Ouais. Alors, la semaine passée, mon Luc, on discutait de l'attitude d'intimidation de certains entraîneurs.
Mm-hmm. Et d'une certaine culture.
D'une certaine culture. Et pendant qu'on en discutait, il arrive un courriel d'un dénommé Pierre qui dit ceci: pour faire suite à votre sujet, j'ai joué dans la Ligue nationale pendant 10 ans et ma carrière a été compromise par un imbécile d'instructeur qui m'a traité de fucking frog dans une défaite de 9-0 au Forum. Et tu te rappelles, je t'ai dit, ça se peut-tu qu'un ancien de la Ligue nationale nous écrive? Ça se peut-tu que ce gars-là soit pour le vrai? On y a répondu, qui êtes-vous? Et là, il nous est revenu, puis il dit, je suis Pierre Jarry, et puis j'ai joué effectivement 10 ans avec les Rangers, les Maple Leafs, les Red Wings et les North Stars du Minnesota.
Un petit peu avec les Oilers d'Edmonton dans l'Association mondiale.
Et là, je l'ai appelé. J'ai dit, donnez-moi votre cellulaire, je peux-tu vous appeler? Il m'envoie son cellulaire. On s'est parlé en fin de semaine, enfin, on s'est parlé vendredi. Et Pierre Jarry est en studio aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Là, vous allez d'abord nous raconter cette histoire-là, là, parce que faut commencer par ça. Là. Vous m'avez écrit là-dessus, vous nous avez... Approchez-vous du microphone un petit peu, Pierre.
Mais c'est une histoire qui a commencé en 1973. Dans ce temps-là, j'évoluais avec les Red Wings de Détroit. J'avais deux coéquipiers qui étaient français. Il y avait Marcel Dionne et Guy Charron. Et on est venu jouer au Forum un samedi soir et on s'est fait battre 9-0. Alors, en arrivant dans la chambre, Alex Delvecchio, qui était l'instructeur de l'époque, rentre dans la chambre et il nous a traité de fucking frog. Alors, moi, sur le coup de l'émotion aussi, j'ai dit, écoute, appelle-moi pas un fucking frog, du fucking whop, excusez le mot, là. Alors, ça a resté comme ça, sauf que le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'aéroport, on s'en allait jouer à Saint-Louis, il m'a remis mon billet d'avion en disant, t'es mieux de vérifier à destination. Alors, j'ai regardé la destination, c'était marqué Virginie dans la ligne américaine. Alors, sur le coup de l'émotion encore, j'ai dit, écoute, moi, je ne m'en vais pas en Virginie, je m'en vais en Floride. Puis je me suis rendu en Floride, puis ça m'a coûté les 5 derniers mois de ma carrière de cette année-là.
Alors, vous avez refusé d'obéir au coach?
C'est pas une question d'obéir au coach, parce que ça fait partie de ton travail d'obéir au coach, mais sauf que ça, je trouvais que c'était déplacé. Puis c'est une histoire qui avait commencé déjà depuis quelques temps avec Alex. Quand on parle d'Alex Delvecchio, à l'époque, Alex, c'était un gars respecté. D'ailleurs, il jouait avec nous autres cette même saison-là, en 73. Il est devenu instructeur dans la saison. Et puis, Alex, c'était un vrai bon gars du temps qu'il jouait avec nous autres. Mais du temps qu'il est devenu un instructeur, là, il a perdu la carte. Puis, il était comme... ça avait pas des décisions qui n'avaient aucun sens.
Il était surtout pas respectueux, visiblement, là.
Exemple, Alex a peut-être eu 50 minutes de punition dans toute sa carrière. Il fallait mettre des gants de boxe pour des séances de 3 minutes dans la chambre contre des coéquipiers avec qui on jouait tous les jours.
Il vous faisait faire de la boxe entre vous?
Ça n'avait aucun sens.
Il vous faisait faire de la boxe entre vous dans la chambre des joueurs?
Oui. Vous demanderez à Michel Bergeron, qui a été pris pour se battre avec Bugsy Watson dans le temps. Puis, pas quelque chose que tu voulais faire dans le temps. Mmh. Alex, en plus, puis je le réitère, c'était un bon gars du temps qu'il jouait avec nous autres. Deux fois sur trois, il fallait le sortir de l'avion parce qu'il fallait le traîner parce qu'il était quasiment moché. Quand il est devenu coach, il a pris la décision que personne n'avait le droit de prendre une bière sur l'avion. Moi, je suis le dernier gars qui a été affecté par ça parce que, en blague, je dis toujours que je mérite ma place dans le temple de la renommée du hockey comme étant le seul joueur de hockey qui a jamais bu une bière de sa vie. Fait que ça ne m'affectait pas vraiment. Là. Sauf que je trouvais que ça n'avait pas de sens pour le restant.
Et lui, Delvecchio, il prenait un coup?
Il prenait un coup.
Solide.
Il fallait sortir une journée sur trois à quatre pattes.
Là, il est-tu joueur ou il est entraîneur? Là?
Entraîneur, normalement. Dans ce temps-là, il est entraîneur.
Quand il prenait un coup solide, là...
Non, c'est... il était joueur dans ce temps-là.
Ah, OK. Quand il était joueur, une fois sur trois, il fallait le sortir de l'avion, puis il était sous mort. Là.
Souvent, oui.
Bon. Là, vous allez me raconter, parce qu'on s'est jasé vendredi, je l'ai dit aux auditeurs, vous allez me raconter cette histoire-là de votre coéquipier que vous avez défendu. Parce qu'on est toujours là, je rappelle qu'on parle avec Pierre Jarry, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui a joué dans les années 70 pour les Rangers, pour les Maple Leafs, pour les Red Wings, pour les North Stars du Minnesota. Quand on s'est parlé vendredi, vous m'avez raconté une histoire. Encore une fois, c'est une histoire d'intimidation.
Ben oui, c'était la suite logique de ce qui s'était passé. Dans le fond, quand j'étais à Détroit la dernière saison, on avait il y avait un gars qui s'appelait Ted Harris qui jouait avec nous, que vous avez probablement connu parce qu'il a joué pour le Canadien de Montréal.
Ted Harris.
Oui.
Le regretté. Là.
Le regretté. Alors, Ted a été échangé à Saint-Louis parce qu'il se battait plus. Et lors d'une partie, les spectateurs à Détroit ont laissé pendre une immense corde du milieu de la patinoire. Il y avait un poulet qui était en peluche qui a explosé au bout de sa corde. Puis moi, j'étais sur la glace quand c'est arrivé. Alors, j'ai coupé la corde. Quand j'ai passé à côté du banc, Alex m'a dit, « Mais pourquoi tu fais ça? » Ben, j'ai dit, « Le gars a été notre coéquipier pendant 5 ans. On n'a pas besoin de l'humilier à ce point-là. Là. Tu devrais te mêler de tes affaires. » Alors, j'ai passé à côté du banc de Saint-Louis. Puis Ted était en pleurs. Alors, j'ai dit à Ted, « Fais-toi-en pas avec ça, là. » Ça vaut pas la peine de t'inquiéter avec ça. Alors, pour faire suite à l'intimidation que vous me parlez, l'année d'après, j'avais figuré qu'il me restait une année sur mon contrat, puis que j'étais dans mon bien-être, j'étais mieux de collecter la dernière année de mon contrat qui me restait. Alors, aucun entraînement, il m'a envoyé dans les mineurs à New Haven.
Ça, c'est Alex Delvecchio qui vous envoie les mineurs.
C'est ça. Et là, rendu dans les mineurs, je me suis dit... Je savais que ma carrière était compromise. Là. Et puis, je me suis dit, si je performe le moindrement des mineurs, il va payer mon salaire, il va être bien content de me garder ici toute la saison. Alors, je me suis dit, moi, je n'y rentrerai pas la vie facile, je ne jouerai pas. Ça a duré pendant presque 3 mois. On m'a mis des estrades, je ne jouais pas. Puis, faut que je relate une chose assez spéciale. Il y avait un joueur dans notre équipe qui s'appelait un ami Don Martino. Don Martino... quand il m'a vu arriver avec l'équipe, il m'a dit, écoute, Pierre, il dit, toi, t'as le talent. Moi, je suis un batailleur, je vais te protéger. On va remonter dans la Ligue nationale tous les deux. Alors, j'ai dit, donne, moi, pas question de ça.
Moi, c'est fini, là.
Moi, c'est fini, je joue pas. Fait que, pendant 3 mois, ils m'ont regardé sur la patinoire pendant 2 heures. Ils me faisaient patiner plus longtemps que prévu. Ils essayaient de me prendre en défaut à 11 heures le soir. En tout cas, ils m'ont jamais pris en défaut. Le 21 décembre, Alex m'appelle pour me dire que là, il m'a envoyé jouer dans la Ligue centrale, dans la Ligue Eastern.
Ça, c'était encore plus bas que la Ligue américaine.
Plus bas, ça. Encore plus bas.
Là, il voulait vraiment vous écœurer pour vous appeler pour un 21 décembre de même. Là,
là ça faisait 2 ans que ça durait. Tu peux imaginer que...
Vous n'aviez plein de casque.
C'est ça. Alors, j'ai dit, écoute, Alex, toi, tu as 2 choix. Tu m'envoies chez nous avec mon salaire ou tu me prends en défaut. Ça, c'est tes 2 choix. Fais ce que tu veux. Le lendemain matin, j'arrive à la patinoire. Le coach me dit, t'es le gars le plus... Excusez le mot. Il dit, t'es le gars le plus merdeux au monde, toi. Il s'était été échangé à Minnesota, puis tu s'en vas après la pratique.
Oh! Là, alors, tu remontes dans le gros club, là.
Alors là, je saute sur la glace, j'étais fou comme un balai. Et j'ai mon ami Don Martino, qui est à côté de moi, qui m'a vu bouder pendant presque 3 mois. Il me dit, mais où est-ce que tu t'en vas? Puis je dis, tu croirais pas ce que j'ai à dire, Don. J'ai dit, je viens d'être échangé à Minnesota, parce que Ted Harris était devenu coach de Minnesota, puis il est venu me chercher.
Ah, le gars que vous aviez défendu. Le gars que vous aviez défendu, votre
c'est
ancien coéquipier qui jouait pour Saint-Louis, que les partisans avaient voulu humilier avec le poulet.
C'est ça.
Mais c'est
oui. Et pour finir avec ça, j'ai dit à Don Martino, j'ai dit, mais tu connais pas la meilleure. J'ai dit, sais-tu pour qui j'ai été changé? Il dit non. J'ai dit, pour toi. Ils sont vrais.
Qu'est-ce que t'allais dire, Luc?
Mais j'allais dire, l'intimidation là, dont on entend parler aujourd'hui, ça vous étonne pas du tout. Là. C'est...
Non, ben dans mon temps, c'était à monnaie courante. Là. Dans le fond, les instructeurs faisaient ce qu'ils voulaient avec les joueurs. On n'avait pas un mot à dire. On n'était pas représenté par aucune...
Association de joueurs.
Ou aucun avocat qui en valait la peine. Les Eagleson étaient plutôt du bord des...
Des boss, des propriétaires. Mais Fucking Frog, là, c'était courant, là. Hein?
Oui, ça, j'entendais ça tout partout sur la glace, là, par les autres Anglais, mais de me faire traiter de ça par notre propre instructeur, là, semble que ça peut... D'autant plus que 9-0, j'ai pas perdu ça tout seul, là. On était 3. On était 22 joueurs sur l'équipe, là. J'ai pas perdu ça tout seul, 9-0, là.
Y a-tu, vous avez joué pendant les années 70, là, est-ce que vous avez senti à un moment donné que ça commençait à évoluer un petit peu, que les mentalités commençaient à changer? Parce qu'il y avait quand même dans ces années-là une affirmation là, des Canadiens français, des Québécois, là, comme on avait commencé à les appeler au début des années 60, puis tu avais des joueurs quand même d'origine canadienne-française, là, les Jean Béliveau, puis les Guy...
Les Serge Savard, puis les Guy Lafleur, puis les Guy Lapointe.
Les Canadiens de Montréal qui vont gagner 4 coupes d'affilée dans les années 70, il y avait une espèce d'affirmation là-dedans, là, de dire arrêtez de nous écœurer, on est capable de gagner nous aussi. Sentiez-vous qu'il y avait un changement d'attitude de la part des autres joueurs, plus de respect peut-être pour les francophones?
Il y a toujours une différence entre les Français et les Anglais au hockey. Là. Les Français me semblaient en tout cas plus talentueux, là, entre guillemets. Sauf que les Anglais, de nature, étaient plus robustes, des gars un peu plus batailleurs. Le Canadien étant ce qu'il était avec 15 joueurs qui étaient Canadiens et Français, qui avaient une grande équipe, eux avaient le respect de la Ligue. Mais les joueurs individuels qui jouaient dans d'autres équipes, on avait à se défendre.
Mais est-ce que les joueurs des Canadiens qui, à cette époque-là, étaient majoritaires là, sur le banc des Canadiens français, est-ce qu'ils étaient les victimes de ces espèces d'insultes racistes?
Ben, honnêtement, je ne pourrais pas dire de la part du Canadien. Il faut dire que le Canadien avait du monde pour se défendre dans leur équipe. Il y avait John Ferguson dans le moment. C'était pas le temps de...
Il y avait Pierre Bouchard à un moment donné aussi.
C'est
là.
Ça, Pierre Bouchard, puis plusieurs autres joueurs là, qui étaient capables
Larry de... Larry Robinson.
C'est ça, effectivement.
Là, vous avez joué avec Guy Lafleur, vous.
Hein? J'ai joué contre Guy Lafleur.
Oui, c'est ça. Mais dans la ligue avec Guy Lafleur.
Oui, effectivement, oui.
Puis là, Guy Lafleur, il a été opéré pour un cancer, hein? Une ablation du lobe du poumon. On va prendre une petite pause. Et puis, au retour, Pierre Jarry, vous allez nous parler un petit peu de Guy Lafleur que vous avez affronté. Puis d'ailleurs, vous avez une petite histoire liée à Guy Lafleur que vous allez nous raconter tout de suite après la pause.
Avec plaisir.
Drainville PM. La voix est libre.
De retour donc avec l'ancien joueur de la Ligue nationale, Pierre Jarry, qui a joué pour 4 équipes dans la LNH. Parlez-nous de Guy Lafleur. Vous avez joué contre Guy Lafleur.
Mais oui, j'ai joué contre Guy Lafleur, puis tous ceux qui ont joué contre Guy Lafleur vont se rappeler de Guy Lafleur toute leur vie, parce que c'est un joueur extraordinaire. Là. Moi, j'ai eu la chance de le connaître un peu plus jeune. D'ailleurs, je jouais pour les 67 d'Ottawa, j'avais 19 ans. Personne ne parlait anglais sur l'équipe, et puis on voulait avoir Guy Lafleur pour venir jouer avec les 67 d'Ottawa.
Personne ne parlait anglais sur l'équipe des 67, c'était tous des francophones?
Ben, il y avait Denis Potvin qui commençait, Jean Potvin qui commençait, mais okay. Il ne faisait pas partie de l'équipe de la première année. Et puis, on m'a demandé d'accompagner le président de l'équipe, un nommé Howard Darwin, pour aller convaincre Guy Lafleur qui restait à Turceau de venir jouer à Ottawa.
Ah oui, c'était même pas ben mal oui. Plus proche. Ben oui, ben oui.
Alors, je suis allé le rencontrer avec son père dans une petite maison à côté d'une fabrique de... Et puis...
Une usine de papier, oui, c'est ça?
De papier, oui.
Dans ce moment-là, on gagnait 60 piastres par semaine au maximum dans les juniors. Et ils ont offert 5 000 $ à Guy Lafleur pour venir jouer à Ottawa.
Wow!
Mais Guy avait ses idées d'aller jouer à Québec. Il est allé jouer à Québec au lieu. Sauf qu'en me revenant dans l'auto, je me dis... moi, je venais de compter 36 buts et 46 buts avec Ottawa l'année d'avant. Puis je me dis... Il offre 5 000 $ à lui, c'est moi qui devais avoir le 5 000 $. Alors, ils m'ont donné le 5 000 $.
C'est vrai? Ah, ben c'est bon, vous vous êtes servi de Guy Lafleur comme levier.
Ce à quoi je dis tout le temps à Guy, j'ai dit, garde de Guy, j'ai dit, c'est moi qui t'ai fait ton premier contrat. Et Guy me répond tout le temps, oui, mais c'est moi qui t'ai fait faire ton premier 5 000.
Alors, on a une pensée pour lui d'ailleurs. Hein? Ouais. Luc, je pense que tu te joins à moi pour
souhaiter.
Ben oui, hein?
Tu vois, il y a eu un quintuple pontage cardiaque. Ça, c'est énorme.
Il y a quelques mois de ça.
Un mois et demi à peu près.
Ouais.
Et puis là, pendant cette opération-là, ils ont découvert qu'il y avait ce qu'on appelle une tache au poumon de nature cancéreuse. Ils ont décidé de l'opérer assez rapidement d'ailleurs. Ça a été fait pendant le week-end. On dit que ça s'est bien passé. On lui a retiré un lobe du poumon.
Et des ganglions.
Et des ganglions. Alors, oui, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement.
Bonne convalescence, Guy Lafleur.
Une légende.
On est avec vous de tout cœur. Hein, c'est un bon gars, hein, Lafleur?
Ben oui, Guy, on le connaît pour son, non seulement pour son talent, mais on le connaît aussi pour son franc-parler. Hein, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, puis...
Là-dessus, vous étiez un peu pareil, parce que vous, c'est vrai, oui, pour que vous teniez tête, dis-je, à Alex Delvecchio,
oui.
Pour, que vous le disiez, garde là, toi, tu vas trop loin, tu vas me respecter, là, puis tu me feras pas C-H-I-E-R, là. Lafleur était capable aussi de tenir tête, sauf que lui, c'était une super vedette. C'était peut-être plus facile de tenir tête à ses entraîneurs et à la direction d'une équipe. Vous avez tenu tête, vous avez payé le prix.
Effectivement.
Bon, comment ça s'est passé après le hockey? Parce que tant qu'à vous avoir... Puis en passant, là, je reçois des textos là, des gens qui m'écrivent pour dire « C'est une belle découverte, on ne le connaissait pas, Pierre Jarry. Merci de nous le faire découvrir.
C'est
merci
large, pour son ça, témoignage. » C'est large.
Si vous avez une question là, pour Pierre Jarry, mettons, là, vous écoutez l'entrevue puis vous vous dites hey, « J'aimerais ça y poser telle ou telle question. » On va peut-être en prendre quelques-unes au 790-9850 ou encore 98-95 par texto. Drainville, commercial 985-FM.ca. Il nous reste encore quelques minutes avec lui. Si vous voulez nous appelez, là, faites-le, gênez-vous pas, 790-9850. J'allais vous demander, l'après, d'abord, avez-vous fait de l'argent, vous?
Ben oui, comparativement aux salariés de l'époque, on faisait tous un peu d'argent, sauf que malheureusement, il n'y a pas grand monde de nous qui sont sortis avec beaucoup d'argent, là, à l'exception de quelques gars d'affaires comme Serge Savard ou d'autres, mais non. C'est pas avec l'argent qu'on faisait dans le temps qu'on peut sortir.
Votre plus grosse saison, mettons, le plus beau salaire que vous avez fait?
105 000 $.
À l'époque, c'était quand même pas mal.
Ah ouais.
Mais vous l'avez pas placé?
Non, malheureusement.
Vous vous êtes mal géré, on peut-tu dire ça comme ça? Prenez-le pas mal, là, mais...
Je me suis géré au jour le jour.
C'est ça, hein?
Ça a bien marché pour lui parce que vous êtes retombé sur vos pieds très rapidement.
Mais vous êtes sorti du hockey puis vous vous êtes bien sorti d'affaires. Donc le hockey vous a quand même aidé pour la suite des choses?
Bon, il n'y a aucun doute que le hockey m'a été ce qui m'a le plus aidé. D'ailleurs, dans le temps, j'étais membre d'un club de golf qui était à Izmir. Et à Izmir, j'ai connu tous les grands présidents d'entreprises qui étaient dans le marché. Mm-hmm. Et c'est sur la foi de ça, j'imagine qu'un de mes amis m'a offert d'aller travailler pour lui en publicité. Et puis, cette personne-là, qui s'appelait Robert Ferland, le frère de Jean-Pierre Ferland, avait deux comptes. Il y avait le Grand Prix du Canada et il y avait aussi le Parc olympique. Et pour une histoire courte, je me suis ramassé avec le Parc olympique 6 mois plus tard. Et j'ai été là pendant 17 ans avant de la publicité pour le Parc olympique.
Vous avez bien vécu.
Oui, effectivement, oui.
Dites-moi, quand vous regardez le hockey aujourd'hui, là, ça vous frappe la différence?
Je pense que tout le monde le voit. La différence est énorme dans le sens que dans notre temps, c'était un jeu. On jouait par plaisir, on jouait par passion, sans enlever quoi que ce soit aux joueurs d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une business. Les joueurs...
Mais le niveau de jeu, la rapidité et tout ça?
La rapidité... Premièrement, les joueurs sont des meilleurs athlètes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est comme ça au hockey, c'est comme ça dans tous les sports. Mais les joueurs s'entraînent 12 mois par année.
Ils sont mieux préparés.
Puis en plus, il y a eu des changements qui ont permis à des joueurs de progresser. Exemple, ils ont enlevé la ligne rouge. On a juste à s'imaginer, dans les années 75, on avait enlevé la ligne rouge pendant qu'Yvan Cournoyer était là.
Avec Lafleur, ça aurait été quelque
chose. Ça aurait été...
Quelques questions à rafale. Avez-vous gagné en coupe?
Non, malheureusement.
Quelqu'un me demande, y a-tu quelqu'un... Quel a été le meilleur joueur que vous avez affronté?
Bobby Orr.
Bobby Orr?
Sans aucun doute.
Ah oui, c'est vrai que c'était quelque chose.
Oui, oui, mais hein. C'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire, Bobby Orr. S'il n'avait pas pris sa retraite de façon prématurée, un défenseur qui a fini premier compteur de la Ligue, c'est quand même quelque chose, ça. Il ne faut jamais l'oublier.
Il y a
là.
Le grand Mario Lemieux aussi qui va passer comme un très...
Ouais, mais un défenseur qui finit premier compteur de la Ligue, tabarouette!
Non, évidemment, il y a eu Mario Lemieux, il y a eu Guy Lafleur, il y a eu Wayne Gretzky, il y en a eu plusieurs grandes vedettes. Mais il n'y a personne qui contrôlait le jeu comme Bobby Orr. Bobby Orr avait le talent, il avait la robustesse, il avait... Puis c'était comme un général. Pas surprenant qu'il ait joué pour les généraux.
La partie se dessinait autour de lui comme les...
Effectivement.
Oui, comme les milieux de terrain au soccer.
Effectivement.
Un ancien du Collège de Laval vous salue. J'ai votre carte de hockey. Est-ce que je peux vous la faire autographier, demande un auditeur. Moi aussi, j'ai une carte de hockey, je pense, de vous. Je vous le dis, là. Je pense que j'ai une carte de hockey.
Es-tu un collectionneur, Bernard?
Non, je suis pas un collectionneur, mais j'achetais, comme tout équipe de mon âge, j'aimais ça. J'achetais de la maudite gomme ballon qui devenait dure après 5 minutes. Mais on ne l'achetait pas pour la gomme ballon en palette, là. On l'achetait pour les cartes de hockey. Est-ce qu'il existe une biographie sur vous, Pierre Jarry, demande un auditeur?
Ben, je pense que tous les joueurs de hockey, on est déjà sur le site web de la Ligue nationale. Je pense qu'on peut voir
Faites Pierre Jarry sur Google.
Oui, absolument.
Pour ce qui est de la personne qui voulait me faire signer l'autographe, ça me fait plaisir, mais juste en lui mentionnant qu'il ne sortira pas avec ça, là.
est-ce que quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a jamais quelqu'un qui s'est excusé auprès des francophones pour les avoir traités de frog, à votre connaissance? C'est-tu déjà arrivé que quelqu'un dise, je suis allé trop loin?
Non.
Non, c'est pas arrivé, hein?
Ben, dans ce temps-là, c'était pas le temps des excuses. Non, je pense pas que le monde...
Parce qu'essentiellement, dans la chambre, dans le vestiaire, dans ce temps-là, t'avais pas... des Russes, des Suédois, des Finlandais, c'était des Anglais puis des Français, généralement Canadiens.
Effectivement, c'est ça.
Quelqu'un me fait remarquer, Bobby Orr a été deux fois champion compteur. Là, les gens me demandent, là, si on veut vous faire autographier notre carte de hockey, comment est-ce qu'on s'y prend?
Ah, là, il est pris.
Y a-t-il un site Internet? Ou
non, mais j'en reçois quotidiennement. On m'en envoie à mon bureau.
Donc, vous avez un bureau quelque part. Là, les gens peuvent faire Pierre Jarry, Google, puis ils vont trouver votre bureau, c'est ça?
C'est comique parce que la plupart des cartes qui me viennent du Parc olympique. Le monde les envoie au 45-45 Pierre de Coubertin, qui était l'endroit où je travaillais dans ce temps-là, puis on m'a fait parvenir à mon bureau. Là.
Ah, j'ai un appel. Très bien. Alors ça, c'est noté. Vous savez quoi faire maintenant si vous voulez faire signer votre carte. Il y a Marc qui nous appelle. Bonjour, Marc.
Bonjour à vous trois.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'appelais parce que mon oncle, peut-être que je jouais avec Pierre, parce que c'était en même année pour les Maple Leafs, en 71-72, Denis Dupéré.
Ah, Denis Dupéré, que je connais très bien, au numéro 15.
Ouais, c'est ça, 15, et par la suite, il y a eu 17 aussi. Mais c'est ça, moi, je me souvenais pas, je connaissais des gens qui ont joué ensemble, là, Rick Keough, Dave Keon et tous les autres. Là.
Effectivement.
Je suis content d'apprendre que vous avez joué en même temps que mon oncle, d'ailleurs, qui est décédé.
Je m'en allais vous dire comment va-t-il. Ah oui, il est décédé malheureusement.
Ouais, il est décédé au mois d'avril dernier.
Ah, désolé d'apprendre. Ouais,
d'ailleurs, il y a ses collègues, Jim McKinney, Mike Pellick,
qui était là,
qui sont venus, Mike Kitchen, qui sont venus à ses funérailles. Là.
Ouais, merci. Je serais été moi-même. Merci. Mais c'était vraiment un bon gars.
Mais Denis, c'est un gars qui était assez timide et puis il a pas voulu trop publiciser que quand il était malade et puis tout ça. Puis ça a passé quasiment sans trop de bruit médiatique.
Merci pour l'appel. C'est très gentil. Une dernière question, Luc.
Quand un joueur canadien-français, aujourd'hui encore, arrive là, dans la Ligue nationale, il sort de la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis il parle pas anglais. Comment ça se passe quand il arrive dans la chambre de Chicago, dans la chambre de Détroit, puis ces choses-là? Est-ce qu'ils font rire d'eux? Est-ce qu'ils se font...
J'imagine que c'est la même chose que les Européens, parce que c'est une situation que les Européens vivent aussi. Là. Ça devrait être facile. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à Ottawa en 1967. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Et puis, j'ai eu un de mes collègues qui s'appelait André Dupont.
Mmh. Oui, Mousse.
Il ne parlait pas un mot d'anglais. Puis...
Il sacrait comme un chartier.
Il se fiait sur moi pour y apprendre à parler anglais. Alors, je lui disais tout le temps, quand on allait déjeuner, quand il voulait avoir deux œufs, j'ai dit, quand tu demandes deux œufs, sunny side down. Et il faisait rire de lui à tous les fois.
dernière. Avez-vous gardé des amis de ce temps-là, des anciens joueurs avec lesquels vous êtes restés en lien, puis c'est encore des bons chums aujourd'hui, là?
Moi, j'ai été privilégié d'avoir des joueurs du Canadien avec qui j'ai été proche longtemps, même si je n'étais pas un Canadien. Des gars comme Marc Tardif, avec qui je suis allé au collège, Régent Houle, Yvan Cournoyer, tout ce monde-là, c'était des amis personnels. Et puis Marcel Dionne, évidemment. J'en ai gardé plusieurs autres là, qui sont à Toronto, Jim McKinney.
Mais vous êtes encore en lien avec eux autres.
Oui, à l'occasion. Ouais.
Ah oui, c'est bien. Ben, ça a été un grand plaisir.
C'était une belle carrière, une belle vie.
Le plaisir était pour moi. Oui, une belle vie. Puis je dirais toujours, ce que je dis à mes amis, il n'y a pas de futur dans le passé. Alors, la vie continue.
On regarde en avant.
C'est ça.
Mesdames et messieurs, c'était Pierre Jarry, donc ancien joueur de la Ligue nationale avec les Rangers, avec les Maple Leafs, avec les Red Wings, puis avec les North Stars. Du Minnesota. Merci de nous avoir contactés. Ça a été un grand plaisir.
Merci à vous.
Vraiment. Luc, on s'arrête et on continue tout de suite après la pause. Tu vas nous parler du métier de garde du corps.
Avec plaisir.
Merci à vous.